Donc nous abordons la table ronde qui achève cette première journée et qui porte sur l'évolution de l'organisation de la recherche en France, en Europe et dans le monde, à partir notamment de la question suivante, qui nous importe à tous, comment garantir l'autonomie de la recherche? Je partirai de quelques constats que les participants à la table ronde et le public peuvent ne pas partager et discuter, mais qui permettront de situer un certain nombre de points de départ. La première transformation majeure en cours, à mon sens, est la mondialisation de la recherche, c'est-à-dire la montée en puissance d'un certain nombre de pays émergents où désormais la recherche a un véritable impact international, tant en qualité qu'en quantité. Cette évolution peut être plus tardive en sciences humaines et sociales que dans les autres sciences, pour des raisons qui seraient faciles d'analyser. Cette évolution, elle affecte nos institutions de recherche et d'enseignement supérieur, puisque les pays émergents veulent construire, et souvent veulent construire vite, des institutions fortes, capables de rivaliser avec les institutions plus anciennes et plus prestigieuses des anciennes puissances scientifiques. Et dans certains cas, tous les moyens sont bons pour y parvenir, et ça peut avoir des effets déstabilisants sur ceux qui sont déjà là. Ça peut aussi quelquefois conduire à construire des cathédrales dans le désert, avec des coûts, et peut-être des effets aussi sur la réputation de la science, qui ne sont pas entièrement favorables. Deuxième évolution, je crois la généralisation d'un modèle dominant, celui des universités américaines ou anglaises, dont le prestige est aujourd'hui plus grand qu'il n'a sans doute jamais été, appuyé sur des agences de moyens nationales ou internationales. Dans ce modèle, l'autonomie et la concurrence sont privilégiées par rapport à des modèles plus centralisés et plus organisés nationalement du type du CNRS. Le nouveau modèle est considéré très souvent comme plus efficace, sur des bases qui ne sont peut-être pas si assurées que ça empiriquement. Il est cependant aussi très probablement plus coûteux, de la même manière que dans le secteur médical, selon certains. Et ce système crée une pression à la hausse sur les coûts tant de l'enseignement supérieur que de la recherche, y compris par la hausse des salaires d'une partie des chercheurs, avec potentiellement un effet de création de star system qui, outre ses coûts, peut avoir des effets sur le fonctionnement social du monde académique sur lequel certains sont inquiets, même si d'autres répliquent que la hiérarchisation de l'activité scientifique a toujours été extrêmement forte et qu'il n'y a rien de nouveau à ce que certains dominent fortement cette activité. Avec la diffusion de ce système anglo-saxon, va le financement croissant de la recherche par projet et la baisse des financements récurrents en Europe. Cela accroît-il, et dans quelles circonstances, le risque d'une immixtion abusive d'intérêts non scientifiques dans la recherche? On peut penser au financement par les États sur des projets qui peut donner davantage de pouvoir à des institutions politiques, selon des modalités qui ne sont pas forcément celles que souhaitent les chercheurs. On peut penser à l'immixtion de grandes entreprises. On peut penser aussi à différents groupes d'intérêts qui financent la recherche avec des manières de faire qui n'ont pas forcément été le résultat d'un long travail d'apprentissage et d'amélioration. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Évidemment, je suis intéressé par l'avis des participants de la table ronde et de tous les participants ici sur ces questions. Comment mesurer, par exemple, ce que c'est qu'un abus de la part de telle ou telle institution? Quels sont les risques autres que ça de tel ou tel mode de financement? La troisième évolution, on l'a illustré aujourd'hui même dans plusieurs interventions, c'est l'imposition d'un modèle d'organisation qui vient de certaines disciplines scientifiques à d'autres. Et clairement, puisque c'est ça qui nous soucie, l'imposition du modèle venant de certaines sciences dites dures aux sciences humaines et sociales. Ça se traduit par exemple par la durée normale d'une thèse ou même les manières de rédiger une thèse doctorale. Ça se traduit par les modalités de financement. serais intéressé par avoir l'avis du président de l'ERC sur l'unicité du modèle des financements ERC selon les disciplines. Ça se traduit par la taille, par exemple, des unités mixtes de recherche du CNRS, dont on n'est pas certain qu'elle soit forcément la même de manière optimale dans toutes les disciplines. Ça se traduit par l'existence de comités d'éthique, on en a parlé ce matin, qui imposent des normes en anthropologie inspirées de la médecine, sans s'être forcément posé la question de savoir si ces normes étaient adaptées aux problèmes qui se posent en anthropologie, où l'interaction n'est pas courte mais de longue durée, où les relations sont, où ce qui importe sont les réseaux et pas les individus, et ainsi de suite. Cet après-midi encore, la différence de pouvoir institutionnel entre les disciplines a été montrée comme une cause d'absence de communication, en particulier quand on veut imposer à une discipline d'écouter l'autre sans demander à l'autre d'écouter l'une. On a donc des risques d'avoir un impact négatif sur la recherche en sciences humaines et sociales de l'imposition de modèles qui ne sont pas forcément adaptés. Une quatrième évolution est la circulation accélérée des idées à travers le numérique, les nouvelles formes de publication, avec des effets variés. D'un côté, avec l'accroissement massif de l'ensemble des informations disponibles, l'explosion des coûts, et l'explosion de coûts qui, pour certaines universités, notamment dans les pays pauvres, peuvent les rendre inaccessibles et contribuer à concentrer la recherche dans les pays ou les universités qui ont les moyens de se le permettre. Inversement, d'autres points de vue, du point de vue des éditeurs ou du point de vue de certains propriétaires des idées, le risque d'une diffusion trop aisée qui se ferait au détriment, par exemple, des auteurs ou aussi des éditeurs, avec peut-être la menace de l'existence de la capacité à éditer des revues scientifiques. Donc des équilibres à trouver qui sont délicats, étant donné la vitesse de l'irruption du numérique dans les questions d'édition. Et dans cette maison, nous sommes directement affectés par cela. En sciences humaines et sociales, s'ajoute la question des langues de la science. L'homogénéisation du débat scientifique par l'usage de l'anglais est certainement très utile dans de nombreux domaines, presque dans tous. Néanmoins, en sciences humaines et sociales, la langue joue un rôle spécifique du fait, par exemple, que les sources, tant écrites qu'orales, sont écrites dans des langues et que le caractère local lié à la langue de nombreuses observations et aussi de nombreux débats qui motivent les chercheurs. La domination de l'anglais conduit à écarter du débat scientifique international certains collègues, mais aussi certaines questions, alors même que les uns comme les autres peuvent être importants. Elle peut aussi déboucher sur la constitution de micro-communautés très internationales, mais hyper spécialisées et éventuellement incapables de communiquer entre elles, y compris parfois pour des raisons linguistiques. Je ne vais pas vous faire, comme je m'étais proposé, parce que ce serait trop long, un petit panorama des transformations récentes en France. On en parlera peut-être dans la discussion. Je dis seulement pour nos amis qui ne sont pas familiers que de fortes restructurations du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche sont en cours depuis maintenant une vingtaine d'années, avec comme objectif essentiellement, comme je le disais au deuxième point, de converger vers un modèle de grandes universités de recherche américaines aux côtés desquels existeraient des universités ou des colleges dans lesquels l'activité de recherche serait moins présente. Ce processus est très compliqué dans un paysage qui vient de la juxtaposition d'écoles professionnelles, mais quelquefois très prestigieuses, d'établissements de recherche sans vocation d'enseignement, comme le CNRS, d'universités quelquefois ployant sous la masse des étudiants et ne pouvant pas faire toute la recherche qu'elles veulent, et de d'autres établissements de recherche comme le HESS. Donc, une pluralité d'enseignements qu'on est en train d'essayer de recombiner d'une manière qui n'est pas forcément simple. Et on peut s'interroger aussi pour savoir si le coût de la réorganisation en vaut forcément la chandelle. Et là-dessus, je suis sûr que certains, au moins des participants à cette table ronde, auront des opinions, peut-être même des opinions étayées. La recherche en sciences humaines et sociales demande aujourd'hui des moyens plus élevés qu'autrefois. L'accès à des ressources imprimées extrêmement larges est devenu la norme, l'accès à des bases de données numériques également, l'accès à des techniques de modélisation et donc à des ingénieurs en mesure de les appliquer est également devenu nécessaire. Peut-être que ça converge avec d'autres disciplines. Néanmoins, à certains égards, il y a encore aussi d'autres très, très fortes différences. La recherche en SHS, elle est surtout très spécifique par son implication très directe dans des questions politiques et sociales sensible, et cette implication est à la fois nécessaire parce que c'est celle qui motive nos collègues, puisqu'il n'y a plus beaucoup de gens qui souhaitent étudier le sexe des anges. C'est aussi celle qui motive la société à financer une partie de nos recherches, mais c'est aussi celle qui amène à remettre en cause potentiellement l'autonomie de la recherche, puisque évidemment, dans un contexte social et politique dans lequel, dans beaucoup de pays d'Europe, on observe des radicalisations de positions politiques, des renouveaux nationalistes, et dans certains pays, dans l'Union européenne même, des menaces directes sur la liberté académique, il est clair que nous avons besoin d'être capables d'exprimer clairement ce qui, dans la recherche, doit rester totalement autonome pour qu'on puisse encore la qualifier de recherche. Donc, quelles sont les formes institutionnelles qui incarnent les tensions en question? Comment sont-elles amenées à évoluer dans un contexte de mondialisation des enjeux, de concurrence scientifique? Comment sensibiliser nos gouvernants à l'utilité des sciences sociales sans risquer de les faire passer pour des formes d'expertise finalisées? Comment justifier socialement une autonomie nécessaire à la pensée scientifique et qui ne passe pas pour autant pour une absence de conscience du coût économique de cette autonomie? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous devons essayer de commencer à répondre. Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir un panel de discussion extrêmement riche et diversifié. On a eu la chance que tous les collègues auxquels nous avons demandé de participer acceptent, malgré des emplois du temps souvent très chargés. Donc je vous présente les participants dans l'ordre alphabétique. Jean-Pierre Bourguignon, vous avez été chercheur au CNRS avant de devenir professeur à l'École polytechnique. Vous avez dirigé le centre de mathématiques. Vos propres recherches portant sur la géométrie différentielle, l'analyse et les aspects mathématiques de la physique théorique. Vous avez été président des sociétés mathématiques de France, puis européenne, directeur pendant 20 ans de l'Institut des hautes études scientifiques à Bures-sur-Yvette, avant de devenir, depuis novembre 2013, le président du Conseil européen de la recherche. Et c'est évidemment spécialement dans cette qualité, comme savant s'intéressant depuis longtemps au devenir des institutions scientifiques et à l'amélioration de leur fonctionnement, que nous avons souhaité vous avoir parmi nous. L'ERC joue aujourd'hui un rôle important dans l'organisation de la science européenne, y compris en sciences humaines et sociales. Carla Hesse, vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Californie à Berkeley, après un doctorat à Princeton. Vous avez rejoint très vite Berkeley où vous enseignez l'histoire intellectuelle des Lumières. Vous avez donc réfléchi au mouvement européen de développement de la science et d'émergence de nouveaux types de savoir, et sur les rapports de ces mouvements avec les transformations de la société moderne. Vous êtes l'auteur en particulier de The Other Enlightenment, How French Women Became Modern, en 2001, et de Publishing on Cultural Politics in a Revolutionary Paris, en 1991, deux ouvrages qui, à notre grande honte, ne sont pas traduits en français, à moins que je me sois trompé. Nous sommes donc curieux de voir la vision d'une historienne de l'Ancien Régime sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais aussi les questions, le point de vue d'une professeure d'une grande université américaine qui, pour nombre de nos disciplines, est considérée comme un modèle d'innovation scientifique. Isabelle Thirault, tu es directrice d'études à l'École des hautes études et avant tout une sociologue spécialiste de la société chinoise actuelle, spécialiste notamment des communautés rurales, des migrations internes et des transformations du lien social, du travail et des nouvelles formes de relations salariales que tu étudies à partir d'une sociologie générale des normes et de la justice. Ton dernier livre s'intitule « De proche en proche, ethnographie des formes d'association en Chine contemporaine », paru en 2013. Et ta présence parmi nous se justifie notamment par le regard que tu peux porter en sociologue, mais aussi en collègue qui travaille avec les universités chinoises sur les transformations du monde académique chinois, notamment en sciences sociales, en particulier dans son rapport complexe avec le pouvoir politique, mais aussi avec le système académique international. Ce point de vue décentré par rapport à nos regards européens ne peut être négligé, étant donné l'entrée en force de la Chine dans les sciences, comme depuis un moment dans l'économie internationale. Christian Topalov, tu es sociologue, directeur d'études à l'EHESS, où tu as été un animateur des études urbaines. Tu as aussi travaillé sur la sociologie des champs réformateurs et scientifiques au tournant du XXe siècle, en comparant les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en mêlant d'analyse des réseaux, de la prosopographie et de l'histoire sociale des sciences sociales, comme dans ton dernier livre, Histoire d'enquête, Londres, Paris, Chicago, 1880-1930, qui vient de paraître. Suivant le fil de l'étude de l'action réformatrice, tu es aussi l'un des organisateurs depuis plusieurs années du séminaire Politique des sciences, qui enquête d'un point de vue critique sur les transformations du système d'enseignement supérieur et de recherche français dans son histoire croisée avec ceux d'autres pays de l'Union européenne et des États-Unis. Enfin, Jay Weiler, vous êtes professeur de droit et président de l'Institut universitaire européen de Florence, mais d'abord un intellectuel mondial, dirait-on, né en Afrique du Sud. Vous avez étudié aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, enseigné à l'Institut universitaire européen, dans des law schools de plusieurs grandes universités américaines, Michigan, Harvard, NYU, avant de revenir récemment, en 2013, comme président de l'Institut universitaire européen de Florence. Vous avez notamment travaillé sur le caractère sui generis de l'Union européenne, sur l'influence de l'Église catholique sur l'intégration européenne et sur la Cour de justice européenne, avec des livres largement traduits comme « The Constitution of Europe »,« The New Clauses Have an Emperor » ou « L'Europe chrétienne, une excursion qui a été traduit en français. Cette trajectoire internationale, la réflexion que vous avez portée dessus et le souci particulier que je vous ai vu porter lors du Haut Conseil de l'Institut universitaire européen à l'innovation scientifique et à la liberté académique m'ont amené à vous demander de participer à cette table ronde et à vous remercier d'être venu. Professeur Weiler, je peux vous demander de parler le premier.
Ok, merci beaucoup, monsieur. Alors, je ne vois pas une attaque directe sur la liberté de recherche, l'autonomie de la recherche, plutôt des menaces indirectes. Et je vais mentionner quatre menaces. La première, c'est une menace disciplinaire, et c'est surtout sur les lettres, en anglais « humanities ». On voit ça très clairement en Angleterre, où il y a des disciplines comme latin, classique, littérature, même histoire, qu'il y a une contraction et ça continue depuis plusieurs années et croissance naturellement, jurisprudence, business schools, governance schools, etc. Et on voit les mêmes choses en Amérique, mais je vais souligner un paradoxe, c'est quasiment une absurdité, qui c'est en Amérique, c'est dans le secteur privé, l'université privée, que les disciplines de lettres sont plus protégées. Et parce qu'il y a un mécanisme de transfert des ressources d'école de droit à faculté de littérature, école de business à faculté de classique, etc. Et c'est plus facile de le faire dans l'université privée. Alors c'est un paradoxe. Et aussi, c'est surprenant, mais c'est dans mon expérience, c'est comme ça, la philanthropie privée, qui est un élément important, incroyable, dans le financement de la recherche et de l'éducation supérieure en Amérique. La philanthropie privée, c'est les gens qui viennent normalement des marchés, mais ils veulent dépenser l'argent sur les choses. C'est assez facile de trouver financement de recherche dans le secteur des humanities, les lettres, etc. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Dans le secteur public, en Europe, en Angleterre et autres pays, et je vois une menace disciplinaire. Et ça va être très difficile à récupérer. Deuxième menace, c'est le sujet de recherche. Prenons mon sujet, c'est l'intégration européenne. La plupart d'argent arrive des sources de l'Europe. Je ne veux pas, absolument pas, mettre en cause la professionnalité, l'impartialité des structures qui décident sur la distribution de l'argent, sur la recherche, sur l'intégration européenne. Mais si on voit les résultats, c'est difficile de trouver des recherches, des études, avec une critique fondamentale du processus d'intégration européenne, de telos d'intégration européenne, etc. Ce n'est pas une conspiration, je le trouve. Mais c'est comme ça. J'ai fait une petite recherche et c'est normal si les grandes lignes, l'appel de recherche vient de l'Europe qui, à la fin, on ne trouve pas des critiques fondamentales. Alors, c'est une menace au sujet de recherche. Ça, c'est facile parce qu'on peut dire c'est je ne sais pas, les gouvernements, l'Union, etc. Mais nous sommes dans le secteur université accomplice aussi, parce que je veux deux menaces dans les structures de la carrière académique. Et la première, c'est cette nouvelle dictature des rankings et de la bibliométrie. Et tout maintenant est mesuré dans le nombre de citations, nombre de publications, impact factor, etc. Et c'est difficile. Je parle comme un président d'université qui est concentré sur la recherche. On fait seulement c'est une grande école de doctorat et grand centre de recherche. C'est difficile pour un jeune chercheur, et pas seulement un jeune chercheur, de décider de dédier les prochaines 3 ou 4 ou 5 années à écrire un livre. Parce que dans la bibliométrie, c'est nous là. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? J'ai fait la recherche. Et l'année précédente, j'ai fait la recherche. Écrire un bon livre, c'est un travail de 3 ou 4 ans. Et il y a une pression dans les structures de carrière académique. Et je trouve ça triste et je ne vois pas une solution facile. Parce que vraiment, c'est tout mesuré maintenant sur ce type de bibliométrie avec des résultats, beaucoup de false positives et beaucoup de false negatives. C'est une mesure très, très approximative. Je vois dans la sélection des professeurs dans plusieurs universités, que les gens finissent à lire les curriculum vitae et pas les œuvres qui ont été écrites. C'est aussi la dictature de la bibliométrie. Et à la fin, pour les quatrièmes menaces, toujours sont les structures de la carrière académique, c'est le premium qu'on donne les gens qui prennent l'argent, les fonds, qui font concurrence, ils répondent aux appels, ils portent à l'université fonds de recherche. Si votre succès, estime, carrière, promotion dépendent sur la quantité d'argent que vous portez à l'institution, ça va, ce n'est pas une attaque directe sur la liberté de recherche. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. mais les incentives sont tels qu'il y a un impact direct dans les types de recherche qui portent l'argent, qui donnent un impact important sur la carrière. Et voilà et les quatre menaces que je vois sur la liberté ou l'autonomie de recherche. Merci.
Si vous voulez.
Je donne la parole à Carla Hesse.
J'essaierai de parler comme historien de l'Ancien Régime, mais ces jours-ci, depuis 2008, je suis doyenne des sciences sociales à l'Université de Californie à Berkeley, et c'est surtout dans ce mentalité que je fais mon intervention. Pour commencer, je voudrais nuancer un peu l'idée qu'il y a un modèle américain de l'enseignement et de la recherche, surtout dans les universités publiques aux États-Unis, d'autres niveaux, qui sont vraiment dans le croisement et la pression que monsieur vient d'identifier, d'être dans un moment de conjoncture entre la privatisation d'un côté et le désinvestissement de l'État de l'autre côté. Et je crois qu'il faut nuancer un peu ce paysage parce que en ce moment, actuellement, le Congrès aux États-Unis est en train de voter sur une législation qui va couper le contribution de l'État pour les recherches en sciences sociales par 45%. C'est pas un petit détail dans le paysage de recherche pour les sciences sociales et humaines aux États-Unis. Mais de l'autre côté, il n'y a pas, jusqu'à ce moment ici, un investissement important par le mécénat privé dans les universités publiques aux États-Unis. Il existe toujours, et avec une accélération incroyable, vraiment, de mécénat privé pour les institutions d'autres niveaux privés. Par exemple, la semaine passée, il y a un homme qui a donné 420 millions de dollars à Harvard. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont déjà une fonds de 36 billions de dollars. Billiards, excusez-moi. De dollars. Donc, il y a une dynamique avec les institutions universitaires privées qui est complètement indépendant de ce qui se passe dans le paysage et public. L'autre côté de ce désinvestissement de l'État aux États-Unis, c'est l'explosion des bases de données sociales qui sont produites par le secteur privé et le secteur privé qui crée des gros bases de données pour l'étude sociale qui sont la propriété privée de ces grandes corporations. Et pour moi, c'est beaucoup plus angoissant, c'est une menace beaucoup plus importante pour nous que le désinvestissement de l'État, parce qu'il faut distinguer, je crois, entre deux modalités de la privatisation, c'est-à-dire privatisation, dotation, mécénat, philanthropy aux États-Unis, qui ont une obligation de transparence dans l'investissement de leur recherche, c'est-à-dire open access pour les projets de recherche financiers par Rockefeller Foundation, par exemple, ou d'autres fondations. Il y a une sorte d'obligation de faire public, de rendre public les bases de données de leurs mécénats. Mais ce n'est pas la même chose avec Yahoo, Google, etc., Facebook, LinkedIn, etc., etc. Donc, il y a une sorte de dynamique de privatisation qui est très, très, je crois, important et difficile pour nous. C'est là, à mon avis, le vrai challenge pour les sciences sociales dans le XXe siècle. Et donc, c'est pour cette raison que j'encourage tout le monde de manifester pour Open Science et Open Access Science aux États-Unis, parce que autrement il y aura deux mondes parallèles qui s'évoluent. C'est la même chose avec les modes de publication que Pierre Cyril a invoqué. Il y a une sorte maintenant de décentralisation des modes de publication qui risque à une perte de contrôle d'autorité scientifique par les universités, et donc la création de toutes sortes de formes de recherche et modes de publication de bases de données qui n'ont pas profité d'une revue vraiment scientifique. Et c'est très, très difficile à corriger les erreurs dès qu'ils y sont publiés. Et comme on a remarqué il y a deux semaines aux États-Unis avec un scandale dans le domaine des sciences politiques aux États-Unis, la concurrence et pression sur les jeunes chercheurs surtout a créé une situation où maintenant nous avons chaque semaine presque des histoires de déception, de création des faux bases de données. Et là, il y a un gros problème éthique produit par cette concurrence. Donc le challenge, je crois, face à toutes ces pressions, c'est de résister une prestance, si vous voulez, réactive. Parce que si les universités publiques réactent, corral our wagons, si vous voulez, tourner nos têtes de tous ces développements, nous serons dans un cul-de-sac. Et donc, il faut trouver des moyens d'innover dans cette conjoncture financière difficile. Et pour moi, le moyen de faire ces innovations, c'est d'adapter et surtout d'introduire des modes d'institutionnalisation qui sont beaucoup plus fluides face à toutes ces incertitudes, qui permet aux jeunes chercheurs surtout d'adapter aux enjeux. Et c'est pour cette raison que j'ai créé à Berkeley ce que j'appelle le Social Science Matrix, qui est un peu un garage space, si vous voulez, un start-up, un blank box pour encourager l'expérimentation cross-disciplinaire, pluridisciplinaire, pour chercher à trouver un nouveau mode de travail pour les jeunes chercheurs qui sont en train de s'orienter vers tous ces vecteurs politiques et financiers. Deuxième mode d'intervention institutionnelle, c'est d'insister à créer agressivement des nouveaux outils de travail qui sont vraiment capables d'être compétitifs avec le secteur privé. Donc, dans le domaine des data sciences, de vraiment créer des institutions pour entraînement et expérimentation pour les jeunes chercheurs, pour qu'ils puissent engager avec le secteur privé comme vraiment égal. Et j'insiste sur cette idée. Donc, face au marché, je crois que le value add, si vous voulez, je ne sais pas le mot en français, mais des universités publiques et instituts de recherche est en effet la lenteur de notre travail et l'insistance sur la recherche de base. Parce que si on visite Google Park ou Yahoo Recherche, c'est un mode de recherche qui est orienté sur les sciences sociales, translational social science, de traduction. Et ce que nous faisons, et nous avons la capacité de continuer à faire, c'est de faire de la recherche de base. Donc j'insiste que c'est notre value add et que c'est ce que nous devons insister sur là-dessus. Je vais laisser ces brochures si vous êtes intéressé à ce que nous faisons à Berkeley.
Question ?
Alors, c'est en 1942, si je ne me trompe pas, que Robert Merton a dit l'essentiel sur l'autonomie de la science. Même si Galilée avait déjà pu se faire une petite idée sur la question auparavant. Il n'y a de savoir scientifique possible que si les savants peuvent se disputer librement entre eux sur la vérité, sur ces critères, à l'abri d'institutions qui leur sont propres et qui assurent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs religieux, économiques et politiques. Alors, bien sûr, c'est un propos normatif plus que descriptif. C'est un énoncé performatif, évidemment, comme souvent les sociologues en profèrent. Mais c'est quand même une croyance, je crois, qui est au fondement de toute celle de la tribu à laquelle nous appartenons ici. Et il faut, je crois, partir tout simplement de là. Alors, le problème dans ce monde sublunaire, c'est que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Le président nous l'a tout à l'heure rappelé. Il y a des savants qui, pour obtenir des ressources, l'argent bien sûr, mais aussi la légitimité ou un peu d'attention tout simplement, s'approchent de très près des pouvoirs. Et comme les pouvoirs aiment bien ça, ils les installent aux commandes de la science. Et ils peuvent ainsi nous piloter, nous manager, mettre en place des gouvernances resserrées. D'où notre débat d'aujourd'hui sur l'autonomie de la science, qui n'aurait pas lieu d'être s'il n'y avait pas quand même un gros doute sur la question. Alors, un mot très bref sur d'où je parle, comme on dit. Je suis sociologue et j'ai travaillé avec des contrats de recherche continuellement entre 1965 et aujourd'hui. Ça fait un demi-siècle de projets, de budgets, d'argumentaires et puis aussi de rapports parfois, aussi de comités, de commissions, d'avis rendus, etc. Et pourtant, ma religion est bien celle de Merton et de quelques autres. Sans l'indépendance des savants, la science se meurt, et tout particulièrement nos sciences sociales, qui sont si fragiles, je crois, pour deux raisons. D'abord parce qu'elles sont constamment sollicitées pour répondre à des questions qu'elles ne se posent pas elles-mêmes, et aussi parce que les experts, n'est-ce pas, sont innombrables, qui se précipitent pour y répondre d'une façon qui satisfait les puissants. Alors c'est donc à cette tension entre indépendance et subordination qu'il nous faut réfléchir, je crois, le mot autonomie suggérant une réponse pieuse et consensuelle à une vraie difficulté. L'histoire de nos disciplines scientifiques se fourmille de situations où des initiatives de très grande ampleur ont été prises par des savants en vue de rendre service à ceux qui gouvernent. C'est pour se faire entendre des réformateurs sociaux et de la Rockefeller Foundation que Park et Burgess définirent un programme de recherche qui faisait sortir la sociologie de la bibliothèque pour la faire entrer dans la ville, une histoire qui devait durer fort longtemps. C'est pour venir en aide aux administrateurs coloniaux, empêtrés dans les problèmes de l'indirect rule, que Malinowski a commencé à regarder les sociétés indigènes comme historiques. Il fondait ainsi une anthropologie politique et révolutionnait l'anthropologie tout court. Et puis, c'est aussi, autre exemple, en dialoguant avec les comptables nationaux et les statisticiens qui, à l'INSEE, définissaient les catégories socioprofessionnelles, que Labrousse a conçu un programme d'histoire sociale, Marchevski un programme d'histoire économique qui était alors la fine pointe de la recherche historique en France. Alors, la liste serait très longue, des propositions scientifiques majeures qui se sont formées dans l'interaction entre l'action gouvernementale et des conflits et questionnements propres au monde savant. Alors attention, je ne suis pas en train de plaider l'innovation dans les trois cas en question. Ce n'est pas parce qu'une, parce qu'elle est nouvelle ou se présente comme telle qu'une proposition scientifique est bonne. Hein, innovation s'inscrit, à mes yeux, dans un lexique que je trouve totalement insupportable, celui de la novlangue, du management, un culte de nos institutions. Mais d'un point de vue d'histoire des sciences, il suffit de prendre acte simplement de l'impact des propositions scientifiques que je viens d'évoquer sur le cours d'une discipline pour constater leur importance. Mais à l'inverse, combien d'initiatives majeures en sciences sociales ont été prises en toute indépendance, voire à contre-courant, des évidences de l'ère du temps et d'une demande sociale supposée? Et combien de ressources publiques ont été déversées en pure perte pour répondre à des questions imaginées par des bureaucrates qui n'avaient aucun sens d'un point de vue scientifique? Alors si néanmoins l'interaction entre savants et pouvoir peut permettre parfois de faire émerger des travaux qui comptent, pourquoi se faire du souci? Eh bien, parce qu'à mon avis, dans l'ordre nouveau en cours d'instauration, le rapport entre savants et pouvoir est en train de s'inverser. Il ne s'agit plus d'initiatives scientifiques qui s'efforcent de convaincre des politiques de leur pertinence pour obtenir des ressources. Il s'agit de politiques qui disent aux savants ce qu'ils doivent faire. Alors comment est-ce possible? D'abord, parce que de l'argent a été déplacé au détriment des institutions gérées par les scientifiques en fonction de leur propre programme vers des institutions créées pour piloter la science, pour l'orienter vers des thématiques ou même des conceptualisations qui ont la faveur officielle. Et c'est la différence essentielle entre la situation actuelle et celle, je n'évoque que la France bien sûr, parce que c'est trop court, j'ai peu de temps, et celle de la DGRST des années 60 et 70. À l'époque, les dotations récurrentes des laboratoires et les créations de postes permanents augmentaient en même temps que les financements sur contrat. Les savants pouvaient choisir. Et il y avait de multiples guichets pour des montants très divers. Aujourd'hui, les dotations et les postes baissent au profit de l'ANR, c'est notre agence de moyens, n'est-ce pas, ici, et désormais au profit aussi des initiatives dites d'excellence. Alors si on ne se résigne pas à une recherche au pied nu, il faut donc faire du projet. Et cette contrainte pratique devient une norme morale. Si vous ne rapportez pas, c'est que vous ne valez pas grand-chose. Et l'AERS est bien là pour nous le rappeler à chacune de ses petites visites. Et je remarque d'ailleurs que certains collègues aujourd'hui font figurer leur chiffre d'affaires dans leur CV. Ça, c'est une nouveauté, véritablement. Autre changement institutionnel majeur, c'est la monopolisation des ressources par une agence dominante. L'ANR distribue ses contrats, elle a aussi distribué leurs titres de rente au LABEX, elle a pris en main la rédaction des constitutions des universités de demain par le moyen des IDEX. Alors, au sein de cette agence, du moins dans les années décisives qui viennent de s'écouler, les ressources sont aux mains de managers qui entendent imposer leur conception de la science. C'est d'un pilotage politique qu'il s'agit et qui s'exprime d'abord par la répartition des ressources entre les programmes. Alors, quittons la France pour nous arrêter un instant sur le modèle que l'ANR s'efforce d'imiter, l'IRC. Je suis très heureux qu'on ait l'occasion d'échanger sur les opinions que je vais essayer de vous présenter. Alors, un mot sur la politique de cet organisme important, tel que ses statistiques 2007-2014 permettent de la décrire. 514 projets financés dans la période dans le domaine Social Sciences and Humanities. Alors, les humanités sont à la portion congrue. 13% pour archéologie, histoire, mémoire, association qui appellerait d'ailleurs commentaire, je crois. 10% pour toutes les disciplines associées à culture. Alors, évidemment, tout ça ne risque pas de rapporter beaucoup de brevets. Alors, à l'inverse, les sciences cognitives bénéficient d'un financement massif, 22% de l'ensemble des subventions, plus que pour économie et gestion, 17%, à peine moins que pour sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, etc., 26%. Alors, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut du pluralisme pour faire de la bonne science. Mais à cette échelle, ce que je vois, c'est la promotion politique d'une doctrine scientifique ou d'une conception idéologique de l'être humain et de la société, ou du moins de ce qu'il en reste dans un tel cadre conceptuel. Alors que donne cette politique en France ? 42 projets financés, moins que les Britanniques, bien sûr, 171, moins que les Néerlandais même, 71. Alors faites un effort, chers collègues, si vous voulez des moyens et accessoirement des primes. Mais il est recommandé de penser comme il faut. Sur les 42 subventions, il y en a eu 13 en France, près du tiers pour les sciences cognitives. Il faudrait aussi regarder de près les 10 subventions en économie. Pour un projet Piketty, combien de projets Tyrol est assimilé ? Le mainstream a ici l'ampleur de l'Amazon. En sciences sociales, dans le panel SH2, sur les 7 projets, d'utiles travaux en droit appliqué, de la gouvernance, de la performance, du développement durable, tout le vocabulaire requis est déployé. Il faut lire toutes ces choses. Ce qui n'empêche pas sans doute de faire du bon travail. Mais qui témoigne, je pense, d'un degré élevé de conformité intellectuelle qu'exige le RSI de la part des sciences sociales. Alors, un correctif cependant, bon résultat français en histoire. 19% des subventions contre 13% en moyenne européenne. Et ce sont des projets où la férule des managers de la science se laisse moins voir. Quoique, mais bon, j'ai pas le temps d'examiner ça de près. Alors, pour conclure, changeons d'échelle. Les contrats doctoraux, c'est une ressource décisive pour notre école et pour les institutions de ce genre. C'est un moyen de construire l'avenir dans la pluralité de nos programmes scientifiques. Et nous avons coutume de répartir entre formations doctorales, de façon relativement équilibrée et stable, ces contrats, et de confier aux enseignants le soin de retenir les meilleurs projets. Hein, c'est nos habitudes professionnelles. Mais les temps ont changé. Et je remercie beaucoup la DEV de m'avoir communiqué pour cet exposé une statistique récente des contrats doctoraux à l'EHESS. Sur les quelques 180 contrats attribués au cours des 3 dernières années, 40% sont des contrats fléchés, dont la thématique doit donc correspondre à celle qu'a fixée l'organisme qui les finance. Région, ministère, contrat IRC, IDEX, etc. Je ne parle pas des procédures d'attribution, je n'en ai pas le temps. Alors, les effets cognitifs de ces dispositifs, je crois, sont très puissants, car nos étudiants ne sont pas stupides. Bien en amont de la thèse, ils repèrent les sujets finançables. Souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas dupes et ils apprennent à pratiquer un jeu que nous connaissons bien, emballer son vrai sujet dans des atours qui le feront vendre. Alors, je crois que intellectuellement, ce n'est pas très sain, d'autant qu'on finit toujours par croire un peu à ce qu'on raconte. Et c'est ainsi que, peut-être est-ce un tableau un peu pessimiste, que de plus en plus, des cohortes de jeunes femmes et de jeunes hommes intelligents se présentent en rang serré avec des sujets conformes et innovants, évidemment. Et c'est ainsi aussi, je crois, que nous risquons d'échanger notre droit d'aînesse contre un brouet de lentilles.
Je voudrais tout d'abord remercier de m'avoir invité à débattre des effets de l'organisation de la recherche sur le contenu de la recherche à partir d'un point de vue un peu décentré, puisque je vais dire quelques mots de la situation observée en Chine. Pour commencer, je voudrais prendre un peu de distance par rapport au concept d'autonomie, pour les raisons que différents intervenants ont évoquées tout à l'heure, parce qu'il faut le déplier en fonction des situations. En tout cas, il faut identifier, comme l'a fait mon voisin, différentes menaces. Mais avant toute autre chose, peut-être, parce que au-delà de la communauté des chercheurs, d'autres acteurs sont impliqués dans la recherche et ils peuvent porter des demandes d'autonomie autres que celles des chercheurs. Si je dis cela, c'est tout simplement qu'en préparant un peu cette intervention, j'ai essayé de regarder justement dans les revues et dans la presse chinoise qui pouvait avoir porté des demandes d'autonomie en Chine, et tout simplement un débat comme celui que nous avons aujourd'hui ne se poserait pas publiquement. Une demande publique de réflexion autour de l'autonomie de la recherche en Chine ne serait tout simplement pas pensable. Et ce qu'on peut identifier comme point de vue, c'est par exemple le point de vue du gouvernement chinois qui demande à ce que la recherche chinoise en sciences humaines et sociales soit de façon croissante, autonome, indépendante de financements étrangers. dans la foulée, donc de ces autres dans la foulée, on peut aussi noter une demande croissante de la part de certains groupes de chercheurs en Chine en sciences humaines et sociales pour une autonomie, indépendance par rapport aux outils, catégories mobilisés de façon partagée par les communautés disciplinaires, une demande d'indigénisation de ces concepts et de ces catégories. Et ce sont bien sûr des communautés de chercheurs avec lesquelles nous devons travailler, nous devons dialoguer et qui coexistent avec d'autres groupes, d'autres communautés de chercheurs en Chine, en sciences humaines et sociales, qui au contraire estiment que l'histoire et la société chinoise sont d'une complexité et d'une richesse telle qu'elles devraient contribuer au contraire à nos débats disciplinaires. Je vais poursuivre, mais avant de poursuivre, peut-être je devrais dire que je m'excuse d'emblée d'évoquer de façon tellement un peu rapide et caricaturale les développements de la recherche en sciences humaines et sociales en Chine depuis 30 ans, puisque ces disciplines ont été bannies jusqu'en 79. On retrouvait trois cités en 79. Et je vais les évoquer très rapidement, sans prendre en compte les différents processus qui, dans la temporalité, ont affecté le renouveau de ces différentes disciplines. Donc je disais un tout petit peu prendre un peu une distance par rapport à ce concept d'autonomie, également du fait que, bien souvent, mais cela a déjà été évoqué par les intervenants précédents, le fait que la question se pose de façon différente selon qu'on parle des visées, des objectifs de la recherche ou des moyens mis à disposition de celle-ci ou des dispositifs d'enquête qui vont être possibles ou pas pour rassembler le matériau nécessaire ou que l'on parle bien sûr du contenu des recherches restituées ou encore de l'évaluation de celle-ci. Ces questions sont transversales, elles sont connectées, elles ont souvent des effets non anticipés les unes sur les autres, néanmoins, il est sans doute nécessaire de les distinguer. Si je reviens un tout petit peu, mais je pense que cette situation évoquée en Chine, que certains traits peuvent se retrouver ailleurs, je pense qu'il est nécessaire également de considérer les effets de l'organisation de la recherche selon, bien sûr, les champs disciplinaires. Et je dirais que dans le cas chinois, il faut voir au-delà de la traditionnelle distinction entre sciences de l'homme et de la société et les autres sciences, il faut regarder au sein des sciences de l'homme et de la société et voir combien à différents moments, depuis 30 ans, et de façon très différente selon les disciplines, les questions se posent. La marge de manœuvre individuelle ou collective des chercheurs chinois varie en effet beaucoup selon la discipline dans laquelle ils s'inscrivent. Par exemple, je ne donnerai que quelques exemples, mais l'archéologie est mobilisée depuis 20 ans largement en Chine par les pouvoirs publics pour rallonger la profondeur historique de la culture et de la civilisation chinoise. Il s'agit donc d'opérer un certain nombre de fouilles qui permettent de faire remonter les débuts de la culture chinoise. L'anthropologie est-elle mobilisée depuis 3-4 ans de façon massive par là aussi ce que j'appelle très rapidement les pouvoirs politiques nationaux, mais également locaux dans le cas d'anthropologie, pour asseoir le processus de folklorisation de minorités nationales afin de promouvoir le tourisme interne ou bien permettre l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de différents sites culturels ou naturels. Mais ces distinctions impliquent, pour parler d'autonomie, impliquent également de se pencher tout simplement à ce qu'il advient au sein d'une même discipline. Et je voudrais simplement évoquer la discipline historique aujourd'hui en Chine. Et le travail d'historien est tout à fait différent selon la période sur laquelle on travaille. Et il y a des périodes récentes de l'histoire chinoise qui sont tout simplement interdites à la recherche encore aujourd'hui. Ce qui implique que les chercheurs chinois se livrent à toutes sortes de contorsions pour arriver néanmoins à travailler sur les époques qui les intéressent. Les menaces ou les questions qui se posent à ces différentes disciplines, au-delà des questions que je viens d'évoquer, sont véritablement liées au nouveau mode de financement de la recherche en sciences humaines et sociales en Chine. La Chine cumule peut-être, pour revenir à des termes qu'on a utilisés tout à l'heure, concurrence et absence d'autonomie. Elle associe également ou elle articule centralisation et financement sur projet. Et d'une façon qui aboutit à des situations qui vraiment soulèvent un certain nombre d'inquiétudes. Donc je disais, depuis 1991, les sciences humaines et sociales en Chine sont financées par le National Social Sciences Fund, donc créé en 1991, qui est lui-même placé sous l'autorité du National Planning Office of Philosophy and Social Sciences, qui lui-même est directement dirigé par le département central de la propagande du Parti communiste chinois. Le National Social Science Fund soutient environ 2000 projets de recherche chaque année, et la publication, la promotion, la carrière des chercheurs chinois est depuis étroitement associée au nombre de projets qu'ils parviennent à faire financer et aux sommes qu'ils parviennent à rassembler. Les mieux dotés de ces projets reçoivent environ 800 000 yuan, ce qui veut dire 120 000 euros environ, et les moins bien dotés, quelques dizaines de milliers de yuan. Ce que je voudrais souligner rapidement, et peut-être que ceci est tout à fait trivial et ne va pas vous étonner beaucoup, c'est que la plupart de ces projets doivent d'abord aider les gouvernants à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. C'est vraiment une aide à la décision gouvernementale. Et ainsi, si vous allez dans des librairies aujourd'hui en Chine, trois quarts des rayons en sociologie sont, j'ai envie de dire, encombrés par des ouvrages sociologiques expliquant aux gouvernants comment il est possible de prévenir ce qu'on appelle en Chine les incidents de masse. Les incidents de masse, c'est des incidents qui rassemblent au moins 100 personnes, ou 100 personnes en plus. Il y avait, selon des statistiques qui sont très peu fiables, mais néanmoins qui existent, il y avait en 1993 8700 incidents de masse, 80 000 en 2003, et on estime aujourd'hui qu'ils sont un peu plus de 100 000 par an. De la même façon, on demande aux sociologues, notamment chinois, de travailler sur tout ce qui est violation à l'ordre public et comment prévenir surtout ces violations à l'ordre public. Violations à l'ordre public peuvent aller de bagarres causées dans l'espace urbain, dans l'espace public, à l'obstruction manifestée aux fonctionnaires chinois qui s'efforcent de remplir leur mission. Et ça, c'est social order violations, ces violations de l'ordre public, encore une fois avec des statistiques qu'on peut discuter, étaient en 2009 de 3,2 millions et elles sont passées en 2012 à près de 14 millions de telles violations dûment répertoriées. Donc la sociologie et l'anthropologie, ces disciplines, doivent aider le gouvernement à identifier les moyens et les mécanismes permettant le maintien de l'ordre social. Et donc plus il y a financement effectivement sur projet, plus des projets qui répondent à ces problématiques vont être financés, être sélectionnés avec tous les effets en ricochet qu'on ne peut pas vraiment évoquer ici. Deuxièmement, des disciplines comme la sociologie, et si je parle de la sociologie, de l'anthropologie notamment, parce que ce sont les disciplines qui, je pense, sont dans la situation la plus inquiétante. Elles sont la situation la plus inquiétante en Chine, parce qu'elles ont pour objet d'étude, ou plutôt lorsqu'elles ont pour objet d'étude la Chine. Je crois que nous pouvons avoir des expériences très différentes en tant que chercheurs en nous rendant en Chine, selon l'objet d'étude qui est le nôtre. Si l'on ne travaille pas sur la Chine, ou si on travaille sur la Chine passée, je crois que les problèmes sont bien moins importants. Mais si on s'efforce de comprendre les réalités chinoises contemporaines, on va se heurter, comme se heurtent les chercheurs chinois, à de très grandes difficultés. Donc je disais aide à la décision, mais deuxièmement, la sociologie et l'anthropologie ont pour objectif officiel de souligner les éléments positifs de la situation économique, sociale, politique rencontrée en Chine. Il s'agit de façon croissante, et ça c'est un changement que nous n'avions pas anticipé, il s'agit de façon croissante, même au regard de ce qui se produisait en Chine il y a 3-4 ans, de faire l'apologie, l'exégèse, peut-être pas de l'idéologie, mais en tout cas de la pensée de ceux qui sont au pouvoir. Je vous parlais tout à l'heure de ce financement par projet, et chaque année, il y a 12 major projects qui sont retenus parmi les 2000 projets financés par le fonds que j'ai évoqué. Ces major projects ne sont pas fatalement ceux qui sont le plus financés, mais ce sont ceux qui donnent un peu le « là » de ce dont il faut se soucier sur le plan de la recherche en sciences humaines et sociales. En 2015, 5 des 12 major projects retenus se proposent donc d'analyser les propos ou l'idéologie du premier secrétaire du Parti communiste chinois, le numéro 1 en l'absence de présidence de la République, Xi Jinping. C'est une situation que nous n'observions pas il y a 3-4 ans. Donc c'est vraiment un fait nouveau que cet souci de mobiliser la recherche à ses fins. Et ce qui est peut-être particulier, et encore une fois je m'excuse pour le caractère un peu caricatural parce que rapide de mon intervention, ce qui est un peu particulier particulier dans ce mode de financement que nous, du National Social Science Fund en Chine, c'est que non seulement il indique un tout petit peu ce sur quoi il faut travailler, mais il dit également clairement ce sur quoi il ne faut pas travailler. Il dit quels sont les thèmes et quels sont les termes qui ne doivent pas figurer dans les réponses aux appels d'offres de ce fonds national. Un certain nombre de thématiques sont jugées irrecevables. Plutôt, il ne s'agit pas de thématiques empiriques, mais d'interprétations, de cadres d'analyse. Pour vous donner une idée de la difficulté devant laquelle sont placées les communautés de chercheurs qui néanmoins essaient de travailler sur la Chine contemporaine, le numéro 8, le document numéro 8, qui est un document important de 2014, indique par exemple que les chercheurs doivent s'abstenir de travailler sur des questions comme les valeurs universelles, la liberté de la presse, la société civile, les droits des citoyens, les aberrations historiques du parti, la classe privilégiée des capitalistes et l'indépendance du système judiciaire.
Qu'est-ce qui reste ?
Cette année, aucun projet concernant la philosophie occidentale et la loi constitutionnelle n'ont été retenus. Enfin, l'autonomie de la recherche en sciences sociales est également affectée par une réglementation concernant la mise en œuvre de la loi sur la protection des secrets d'État de la République populaire de Chine. Cette réglementation a fait l'objet d'une révision en 2014. Elle élargit beaucoup la notion de secret d'État, tout simplement en ne proposant pas de définition de ce qu'est un secret d'État. Ce sont les dommages éventuellement ou potentiellement créés par la transmission de certaines informations qui permettent de saisir, de déterminer, de désigner ce qu'est un secret d'État. Ceci n'est pas anecdotique puisque plusieurs chercheurs d'une Académie des sciences sociales chinoise, qui pourtant est loin d'être un lieu de grands débats critiques et ouverts, plusieurs chercheurs ont été expulsés du fait qu'ils avaient transmis de façon illégale des secrets d'État à des forces étrangères. Toute cette situation, les conséquences de cette situation sur le travail de recherche mené sont complexes. Et je vous l'ai dit, de façon croissante, non seulement il y a un financement sur projet, un financement bien sûr qui ne relève jamais de sources privées mais uniquement publiques, mais la promotion des chercheurs et leur carrière est fondée, je l'ai dit, sur leur capacité à avoir accès à de tels financements, et surtout ce qui existait il y a encore 10 ans et qui permettait aux chercheurs de s'accommoder quelquefois à cette situation parce qu'une fois qu'ils intégraient une institution de recherche ou une université, ils pouvaient y faire carrière. Là maintenant, leur situation est réévaluée, bien sûr pas tous les ans, mais au bout d'un certain nombre d'années, et ils peuvent bien sûr voir leur carrière peut-être mise, un terme peut être mis à cette carrière, ou bien ils peuvent être démis, je dirais, de l'université qui les a accueillis pour quelques années, sinon pas notamment obtenu le financement pour un certain nombre de projets. Donc pour conclure, je voudrais dire que cette situation... Les transformations récentes posent un grand nombre de problèmes aux chercheurs en Chine, mais également à ceux qui veulent travailler avec eux et qui impliquent vraiment de ne pas partir avec des cadres trop généraux, mais de voir ce qui se passe selon les disciplines et même selon les moments. Deuxièmement, la situation est d'autant plus compliquée que, malgré tout, la publication dans des revues internationales demeure un critère important d'avancement, et que pour des raisons de langue, mais pas uniquement de langue, pour des raisons tout simplement du contenu de la recherche menée, nombre de ces revues internationales ne publient pas les travaux de ces chercheurs chinois, et encore une fois, ne sont publiées qu'une partie des recherches. Je voudrais insister là-dessus, les recherches en sciences humaines et sociales en Chine sont extrêmement dynamiques, pleines de vitalité, mais beaucoup de ce qui se fait, tout simplement, n'est pas publié. Et pour conclure, je voudrais également alerter sur le fait que, en tout cas, en Chine, et quand je dis en Chine, là aussi je simplifie parce qu'il faudrait parler des communautés scientifiques à Hong Kong et à Taïwan, qui sont dans une situation tout à fait différente, et des connexions entre les communautés chinoises, Hong Kong et taïwanaises. Mais je voudrais dire qu'il y a vraiment un effet tout à fait pervers de la situation actuelle, parce que du coup, dans nombre des départements, sont particulièrement reconnus et considérés comme légitimes les chercheurs en sociologie, en anthropologie, qui ne font pas d'enquête, qui ne font pas de terrain, qui soit traduisent des œuvres étrangères, qui soit discutent de théorie, et la théorie ne touchant pas à l'objet Chine n'est pas vraiment une menace, et qu'il y a du coup véritablement, et je crois que l'école essaie de répondre aussi à cette question, une demande de nombreux départements en Chine pour que nous les aidions à remettre, je dirais, à l'honneur la question de l'enquête, qu'elle soit sociologique, ethnographique ou historiographique.
Merci beaucoup Isabelle pour ce tableau qui nous a fait rire mais qui n'est pas drôle et qui malheureusement est peut-être traduit une situation qui est particulièrement grave en Chine mais qui nous menace à certains égards dans un certain nombre de pays plus proches. Il n'y a pas longtemps, un de nos collègues faisait un exposé où il montrait l'instrumentalisation des sciences sociales pour prédire les crimes aux États-Unis. Ce n'est pas donc une situation si exceptionnelle. Je donne la parole à Jean-Pierre Bourguignon. Intervenir à son
Merci de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous parler essentiellement de l'ERC, même si c'est avec un éclairage un peu particulier, vu mon histoire personnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'abord français, donc singulier de ce point de vue-là, qui a vécu 45 ans au CNRS, même si j'ai enseigné 26 ans à l'école polytechnique. Donc, a été à l'abri d'une certaine façon dans un système quand même très protégé, mais quand même aussi responsable d'une institution un peu atypique, qui un peu ressemble à l'EHESS, mais l'IHES est beaucoup plus petit d'abord, et surtout financièrement un petit peu plus compliqué à faire fonctionner, puisque l'État français donne la moitié des ressources. Donc le rôle de directeur, c'est de trouver l'autre moitié des ressources. Donc la question des ressources est une chose qui m'a occupé un petit peu. Donc je voudrais parler de l'ERC parce que, d'abord, c'est ma fonction, mais aussi parce que c'est quand même vraiment une aventure un peu singulière qui mérite d'être analysée, comme M. Topalov a proposé de commencer à le faire. Mais je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce que c'est comme ça, je crois, qu'on peut le faire évoluer encore, que c'est une institution qui a été le résultat d'une campagne longue, difficile, par la communauté scientifique, pour obtenir que la Commission européenne consacre de l'argent à la recherche en direct. Alors, une des raisons pour lesquelles ça ne se produisait pas avant, c'était simplement que c'était pas prévu dans les traités. C'est-à-dire, dans les traités, la recherche n'était présente que par le biais de la cohésion, donc d'où le fait que la Commission européenne finançait des réseaux, et aussi dans le cadre de ce que, je ne sais pas comment traduire vraiment en français, wealth creation, création de valeur, d'où le fait que c'était très souvent des accords de consortia dans lesquels il y avait effectivement des entreprises. Et pour que la recherche soit financée en tant que telle, il fallait un changement des traités. Et c'est finalement le traité de Lisbonne, 2009, qui a permis ça, même si l'ERC était créé en 2007. Ça fait partie des bizarreries de la Commission européenne, puisqu'on était en route vers cette légalisation. Elle a pu avoir lieu. Et ça n'était possible que parce que beaucoup de scientifiques se sont mobilisés. C'était un travail d'abord difficile. Et ensuite, il y a eu des relais importants de certains hommes politiques et aussi au niveau de la Commission, de certaines personnes. Je voudrais simplement mentionner deux noms en particulier, celui de Mariano Gago, malheureusement, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui a été ministre portugais à plusieurs reprises, chargé de la science, lui-même chercheur au CERN dans sa vie, et qui a joué un rôle très important en disons, portant sur les fonds baptismaux une structure qui s'est appelée ISC, Initiative for Science in Europe, qui était le lobbying des communautés scientifiques pour la création de l'ERC. Et une autre personne qui est Philippe Busquin, qui a été ministre belge de l'éducation, mais ensuite commissaire chargé de la recherche, et ensuite député européen. Et donc Philippe Busquin, chez qui j'ai dîné il n'y a pas très longtemps, a été vraiment la personne clé. C'est pas sous le temps où il était commissaire que l'ERC s'était créé, mais il a tout préparé pour que ça se produise. Donc le commissaire sous lequel l'ERC a été créé s'appelait Monsieur Potochnik. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc le schéma qui a été défendu par les scientifiques et qui était déjà pour la Commission une chose extrêmement difficile à accepter était que le programme devait être simple. Il devait être piloté par des scientifiques et il devait avoir une autonomie par rapport à la Commission aussi grande que possible. Alors le fait qu'il soit simple, c'est comme ça qu'on est venu à des projets dans lesquels il y a une personne qui propose le projet. Et aussi que finalement, la façon dont le projet se met en place, c'est par signature d'une convention, enfin d'un contrat, entre l'ERC et une institution. Et le rôle de ce contrat est de préserver les droits du chercheur. Voilà, donc ça c'est le côté simple. Le côté, disons, donner du pouvoir à des scientifiques, ça a été le fait que l'organe de pilotage de l'ERC est un conseil scientifique de 22 personnes que j'ai l'honneur de présider. Il y a eu un changement de gouvernance, mais c'est un peu secondaire pour ce que je vais dire, qui fait que maintenant le président est quelqu'un qui réside à temps complet, dans 80% de mon temps officiellement à Bruxelles, et qui a, d'une certaine façon, donc quand on regarde les rangs hiérarchiques, qui pour moi n'ont pas beaucoup d'importance, mais comme vous pouvez imaginer, dans le contexte de la Commission, on a un rang de directeur général, avec comme personne pour m'aider, une personne, sachant que le directeur général, on a 1500 à peu près de chargés de la recherche. Mais bon, évidemment, il y a une agence qui fait fonctionner l'ERC, qui je crois est remarquablement efficace, qui s'appelle donc l'ERCEA, Executive Agency pour l'ERC, qui comprend aujourd'hui 400 personnes et qui gère en encours de trésorerie 5 milliards d'euros. Et donc ça veut dire que cette agence actuellement est d'une efficacité assez exceptionnelle puisque son coût administratif l'année dernière était 2,12% de son budget, ce qui est un record du monde puisque la NSF était 4,8%, NIH est à 7%, la Commission européenne est à 5,7%. Mais malgré tout, voilà, donc ça, c'est le contexte général. Maintenant, la partie autonomie est assez compliquée, au sens où le conseil scientifique a la responsabilité de décider des programmes qui sont mis en place, de comment l'argent est utilisé, mais tout ça dans un contexte qui est soigneusement contrôlé par la Commission européenne. Et je dois dire que l'essentiel de mon travail est quand même de, en permanence, aider, enfin, évidemment, sur la suggestion de l'agence, de s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion dans notre autonomie. Et je suis en train de vivre une crise dans laquelle, dont je ne vous parlerai pas ce soir, parce que j'ai ma dose de cette crise, dans laquelle, justement, cette question d'autonomie est absolument au cœur du problème. Donc voilà le contexte général. Alors maintenant, M. Topalov a très légitimement apporté, disons, une sorte de description de ce que l'ERC a fait. D'abord, la chose que je veux dire, donc, c'est que l'ERC couvre l'ensemble des champs, donc de physique, ingénierie, mathématiques, chimie, informatique, sciences humaines et sociales, sciences de la vie, et aussi les humanités. Donc il n'y a pas d'exclusif de ce côté-là. La responsabilité du conseil scientifique, c'est d'organiser les champs du savoir pour faire en faire une couverture. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'il y a 10 programmes, 10 panels ou 10 comités de sélection qui sont donc en physique et ingénierie, 9 en sciences de la vie et 6 en sciences humaines et sociales. Et donc voilà, ça c'est une décision du conseil scientifique, donc il faut l'assumer. Par contre, quand est-ce qu'on regarde maintenant la distribution des moyens, la distribution des moyens, elle est simplement un miroir de ce qu'envoient les chercheurs. Autrement dit, il n'y a pas de décision. Il y avait une décision a priori de répartition des crédits entre les 3 grandes masses que j'ai décrites, physique, ingénierie, sciences de la vie et sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales avaient 17% de l'ensemble du budget global de l'ERC. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas en tête le budget de cette année est 1,6 milliard d'euros, donc somme malgré tout significative. Et donc, on a décidé à partir de 2015 de cette année que, en fait, à partir de 2015, oui, de cette année, que, en fait, cette répartition a priori des pourcentages tombait et qu'on avait une répartition strictement à la pression des demandes budgétaires de l'ensemble des projets. Donc, ce qui arrive dans un panel donné, dans un comité de sélection, est strictement proportionnel à la quantité d'argent qui est demandée par les chercheurs dans ce domaine. Ce qui nous a valu, d'ailleurs, une protestation énergique des économistes qui nous ont dit « on est meilleur que les autres et on a moins d'argent que les autres ». Voilà. Donc, je n'ai pas répondu, mais voilà l'état de la situation. Voilà. Voilà. Ils ont fait même une publication dans un journal pour expliquer que la distribution des crédits choisis par l'ERC était au désavantage de l'économie mondiale. Donc voilà, je suis mis à l'index des économistes du monde entier, c'est normal. Donc tout ça pour dire que donc, la répartition qui nous a été décrite est malgré tout fondamentalement simplement un miroir de ce qui a été demandé dans les différentes commissions. Alors après ça, on peut nous critiquer, et c'est la critique qui est sûrement fondée, que la composition des panels est une composition biaisée. Alors la question se pose, et c'est une question absolument légitime, et je dois dire que depuis que j'ai pris mes fonctions, je préside le comité qui s'appelle le comité des panels, qui décide donc de la sélection des membres, évidemment. comme vous pouvez imaginer, pour les sciences humaines et sociales, ce n'est pas moi qui en suis le responsable direct, mais la vice-présidente en charge de ça, qui s'appelle Nuria Sebastián Gález, qui est une psychologue de Barcelone. Mais évidemment, on mobilise l'ensemble des compétences dans le conseil scientifique pour faire ça. Et il est vrai, parce que j'ai entendu des protestations répétées là-dessus, que la représentation, en particulier du point de vue des langues qui sont couvertes, n'est pas... personnellement, je trouve que la proportion d'Américains qui sont dans les panels est, à mon avis, légèrement illégitime. Excusez-moi. Même si c'est très important que nous ne vivions pas en vase clos et qu'on a un pourcentage très significatif de spécialistes qui viennent d'autres pays. Donc voilà où on en est. Donc après ça, le mécanisme de l'ERC est un mécanisme dans lequel effectivement les gens soumettent des projets et c'est sur la base des projets que les choix sont faits. Donc là, je voudrais dire maintenant quatre choses un peu différentes. La première, c'est que l'ERC est simplement un des outils que s'est construit, un instrument que s'est construit la Commission européenne pour financer la recherche. Évidemment qu'il y en a d'autres, y compris dans le cadre de la Commission européenne, puisque l'ensemble du programme de recherche de la Commission européenne représente sur les sept années 2014-2020 à peu près 80 milliards d'euros, et que l'ERC en récupère un peu plus de 13, c'est-à-dire à peu près 17% de cet ensemble, donc c'est un ensemble. Et évidemment, la chose qu'il faut absolument garder en tête, alors peut-être pour vous c'est une mauvaise nouvelle, c'est que l'argent qui vient de la Commission européenne pour soutenir la recherche, c'est à peu près 8% du budget de la recherche européenne. Et l'ERC, donc, c'est à peu près 2% de l'ensemble de la recherche européenne. Donc quand on vient me dire « vous ne faites pas tout ce que vous devriez faire », avec 2%, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà. Et alors en particulier, donc, dans mon job, j'ai la nécessité professionnelle, évidemment, de rencontrer un certain nombre de secrétaires d'État ou de ministres en charge de la recherche. Et je dois dire que le panorama est extrêmement divers. Entre ceux qui annoncent ouvertement ce qui a été cité par M. Topalov, je ne sais pas s'il pensait que c'était à ce point possible qu'on le dise, mais j'ai été confronté dans un débat public avec un secrétaire d'État, avec un ministre, pardon, disant qu'il faut que les chercheurs comprennent que s'ils demandent de l'argent à l'État, ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire. Voilà, c'était au moins, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Évidemment, comme vous imaginez, j'ai protesté assez violemment. Il n'était pas content du tout, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et la première chose qu'il m'a dit, quand même, voilà. Désolé, je n'ai pas changé d'avis. Je ne pense pas que ce soit la bonne définition du soutien par un État de la recherche, même s'il n'est pas illégitime qu'un État ait aussi une action de ce genre. Mais ça ne doit pas être sa seule action. Il doit en avoir beaucoup d'autres. Donc il est sûr, donc c'est ça mon premier point, que dans l'évolution des dernières années, on est allé beaucoup et dans beaucoup de pays vers de plus en plus de financement top-down, c'est-à-dire avec des programmes affichés. Ça a été le cas en France, mais c'est le cas encore plus massif dans un pays comme les Pays-Bas ou même un pays comme la Finlande, qui est considéré comme un pays exemplaire sur la quantité d'argent qu'il dépense en recherche. Donc on est quand même dans cette situation. Alors maintenant, évidemment, tout ça se passe aussi dans un contexte où la quantité d'argent qui est mise dans la recherche a fluctué beaucoup dans les dernières années dans certains pays. L'Espagne a coupé son soutien à la recherche de 40% il y a 4 ans maintenant. C'est en train de remonter doucement, mais quand on coupe le budget de 40%, c'est forcément que ça a des conséquences assez dramatiques. Et j'ai appris, d'ailleurs, d'un collègue britannique récemment, on était réunis à Tokyo, la plupart des responsables de financement d'agences, j'ai appris que le budget britannique, maintenant le budget public britannique, est passé en dessous des 0,5% du PIB. Donc il est en dessous de ce que l'Italie met comme argent public dans le soutien. Alors heureusement pour les Britanniques, la recherche privée est présente, donc le soutien à la recherche en Grande-Bretagne reste malgré tout significatif, mais pas par de l'argent public. Donc le schéma qui a été évoqué par monsieur est en place. Donc ça, c'était le premier point qui était de bien mesurer la place du soutien de la recherche européenne. Mais malgré tout, je ne veux pas du tout diminuer les responsabilités de l'ERC. Et alors, vous parlez d'un certain nombre de mes batailles. Donc une de mes premières batailles, comme je l'ai évoqué, c'est d'essayer de convaincre les meilleurs chercheurs d'être présents dans les panels. J'ai entendu certains sociologues, je ne nommerai personne, me disant qu'ils s'étaient retirés parce qu'ils trouvaient que la prédominance idéologique de certains groupes était trop forte et qu'ils n'arrivaient pas à manifester son point de vue. Je dois dire, je ne sais plus trop quoi dire, parce que si ceux qui sont censés défendre l'autre point de vue s'en vont, je ne sais plus faire. Mais bon, ça, c'est peut-être qu'il y a eu un équilibre qui était un déséquilibre et qu'il fallait corriger ça. En tout cas, on essaye d'y être attentif, très attentif. Vous ne savez pas, mais disons, les sujets qui vous sont chers, qui me sont le plus proche de moi, c'est la philosophie. Et donc, je discute avec un certain nombre de philosophes allemands, en particulier, qui protestent véhémentement qu'ils sont mal défendus à l'ERC. J'ai envie de leur dire, peut-être déposer plus de projets, on aura peut-être plus de chances d'y arriver. Et surtout, ne refusez pas de venir dans les panels quand on vous propose de venir. Parce qu'aussi, on a ce problème après de la poule et l'œuf, c'est-à-dire comment on fait ça. Une autre bataille que je mène, alors pour un mathématicien, c'est facile de la mener, c'est la question de la bibliométrie. Parce que pour les mathématiciens, la bibliométrie, ça n'existe pas. Donc, on est à l'aise pour en parler. Donc, effectivement, l'âge moyen de citation d'un article en maths, c'est de 8 à 9 ans. Donc, tous les systèmes de calcul des indices à 3 ans, simplement, ça n'a aucun sens. Donc, c'est facile de dire qu'on n'en a pas besoin. Et en particulier, ma bataille est très difficile avec les collègues des sciences de la vie, parce que pour eux, c'est leur pain quotidien, ce qu'ils font tout le temps, etc. Donc j'insiste lourdement pour qu'ils aillent au-delà de ça, etc. Dans vos domaines, je pense que c'est quand même assez variable, l'impact de ces indices. Personnellement, mon slogan est toujours le même, c'est-à-dire qu'un indice est utile si j'en sais assez pour m'en passer. Donc je trouve que c'est une bonne définition de l'utilisation de la bibliométrie, parce que si on veut vraiment la comprendre, il faut avoir une connaissance telle des choses qu'en fait, on n'en a pas besoin. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que j'essaye de faire les choses. Malgré tout, c'est une bataille difficile, parce qu'il y a des pressions qui viennent constamment pour justifier les choix qu'on a faits, etc. Et pour moi, ce qui justifie les choix, c'est ce que les chercheurs font, c'est rien d'autre. Et c'est pour ça que l'ERC est quand même construit pour que les chercheurs aient à rendre très très peu de comptes sur ce qu'ils font. Ils ont un financement pendant 5 ans, c'est quand même une durée significative pour mener une recherche. Et pour moi, le bonheur de mon job, c'est de rencontrer des chercheurs qui ont fait des trucs incroyables et qui viennent nous raconter ce qu'ils ont fait. Et donc la règle de vie que j'ai donnée pour le staff, elle est très claire, c'est partout où je vais passer au moins la moitié de mon temps avec les chercheurs pour parler de leur projet, parce que c'est ça qui m'intéresse. Même si c'est forcément pointilliste, hein, on va signer demain le 5000e contrat de l'ERC. Donc vous imaginez qu'on a couvert des choses quand même extrêmement diverses, peut-être quelquefois à tort. Je n'ai pas entendu beaucoup dire que telle personne qui avait un contrat ERC n'aurait pas dû l'avoir. J'ai entendu beaucoup dire que quelqu'un qui aurait dû avoir un contrat ERC ne l'a pas eu. Ça, oui. Mais je n'ai pas entendu trop de... Oui, bien sûr, mais quand même, ça veut dire qu'on n'a pas forcément mal placé l'argent. On aurait dû en placer plus, peut-être, mais voilà. Alors maintenant, sur l'autre chose qui sont sur les montants... là encore, c'est une chose... Alors là, la bataille que je vous incite à mener, je la mène avec mes collègues mathématiciens, c'est pas du tout, il n'est pas du tout demandé que les gens demandent la somme maximum qui est proposée. C'est les institutions qui poussent à ça. Mais je vois pour les mathématiciens, en moyenne, les sommes qui sont finalement attribuées sont plutôt de l'ordre de la moitié du plafond. Et je crois que ça correspond à ce dont les mathématiciens ont besoin en moyenne, sachant que certains ont vraiment besoin de beaucoup d'argent pour leur projet, parce qu'ils ont un projet qui demande beaucoup d'argent. Mais ça n'est pas vrai que si on arrive avec un projet qui ne demande pas le maximum, on a moins de chances que si on a un projet qui demande le maximum. C'est sûr que si vous venez à l'ERC pour demander 50 000 euros, ça ne va pas coller, parce que simplement, la lourdeur de gestion qui va aller avec, elle va être la même que vous ayez 50 000 euros ou que vous ayez 3 millions. Donc évidemment, 50 000 euros n'est pas la bonne taille pour demander des projets. Mais il n'y a aucune raison de ne pas demander ce qui correspond à ce dont vous avez besoin pour mener le projet qui vous intéresse. Voilà. Donc, alors peut-être vous trouvez que c'est trop lourd à mettre en place si finalement vous avez besoin de 100 000 euros pour faire votre projet. Ça, je comprends bien. Le dernier point que je voudrais faire, qui pour moi me tient beaucoup à cœur, mais qui est lié directement à la façon dont l'ERC fonctionne, le Conseil scientifique, et là encore, c'était un choix, a délibérément mis les deux tiers de ses moyens sur les jeunes. Donc ça veut dire que sur les gens entre 30 ans et 40 ans, en gros. Et avec d'ailleurs des mesures particulières pour permettre aux jeunes femmes d'être plus facilement soutenues à cause de leurs contraintes de vie que les hommes. Donc en particulier, puisque c'est un système où le premier schéma est donc ce qu'on appelle les starting grants, c'est-à-dire de 2 à 7 ans après la thèse, que la borne supérieure de 7 ans est repoussée de 18 mois automatiquement pour les femmes qui ont un enfant, de 3 ans s'il y a 2 enfants, etc. Et la chose très importante, parce qu'on pourrait faire ça et dire « Ouais, ok, vous avez fait quelque chose, mais ça ne sert à rien », le taux de succès des femmes qui se présentent au-delà de 7 ans est le même que, quels que soient les autres choses. Donc ça veut dire que cette mesure a produit des effets. Ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'on continue à avoir le fait que, dans vos domaines où les femmes sont très présentes, le pourcentage de femmes candidates est en dessous du pourcentage de femmes qui sont présentes dans les milieux que vous représentez. Donc, d'une certaine façon, il faut qu'on comprenne pourquoi les femmes sont moins candidates à l'ERC que les hommes. Après ça, on a notre propre travail à faire, d'être sûr qu'elles ont les mêmes taux de succès que les hommes. Ça, c'est encore un autre sujet. Et alors, le dernier point donc, que je voulais faire, c'est qu'on a ce parti pris de soutenir plus les jeunes chercheurs. Mais une chose qui me tient, moi, beaucoup à cœur, qui fait partie des transformations de l'environnement de la recherche dans les dernières années, qui a été dans beaucoup de pays, et en France en particulier, mais dans certains pays, c'est allé encore beaucoup plus loin, qui est le basculement de beaucoup de postes stables en postes instables. Et en particulier, une chose qui, moi, m'a assez sidéré, je dois dire, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai demandé au niveau de la Commission européenne ce qu'on avait comme statistiques sur ce point pour me rendre compte que les statistiques disponibles étaient fausses, que là-dessus, Eurostat, qui d'habitude fait un très bon travail, avait fait un travail dont je ne sais pas pourquoi il est aussi inconsistant. Je pense qu'une une des choses qui s'est produite, c'est que pour beaucoup de pays, on a changé la définition des chercheurs sans l'enregistrer. Donc la définition n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, quand vous regardez le taux de chercheurs du Portugal, il est supérieur à celui de la France. Je ne crois pas que ce soit une réalité. La raison, tout simplement, c'est que la définition d'un chercheur en Portugal, c'est quelqu'un qui a un master. Et donc, évidemment, en France, on n'est pas chercheur si on a un master. Et donc, le glissement qui s'est produit dans beaucoup de pays a été d'assimiler comme chercheur les doctorants, qui est une chose pas illégitime en soi, à condition qu'on le reconnaisse et qu'on sache qu'on ne parle plus de la même chose quand on a fait le changement par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc, quand on regarde les statistiques, c'est génial. Le nombre de chercheurs augmente de 4% par an, régulièrement, depuis 12 ans. Donc, il n'y a pas du tout de souci. Simplement, on ne compte pas les mêmes personnes. Donc, évidemment, on a ça. Et alors, évidemment, l'autre chose qui n'est absolument pas répertoriée, et moi, je me bats pour que ce soit répertorié, c'est quand même quel est le pourcentage de gens sur des postes durables et quel est le pourcentage de gens sur des postes non durables. Le seul pays pour lequel j'ai une statistique un peu globale, c'est le Danemark, pour lequel on est passé de 60% de postes stables, 40% de postes instables, qui était la situation dans les années 90, à exactement la proportion inverse maintenant. Donc ça veut dire quand même une précarisation assez considérable des emplois. Pour la France, je ne connais pas les chiffres. Je pense que la situation est moins préjudiciable que dans d'autres, même si l'évolution a été quand même très considérable. Donc pour finir, je pense que disposer de statistiques fiables sur l'emploi scientifique est absolument indispensable, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. Et je pense que d'ailleurs, c'est mon dernier point, il y a une telle diversité des pratiques de la recherche, une telle diversité des organisations de la recherche, y compris même dans les sujets que vous couvrez, que d'une façon, on doit être très très prudent sur toute chose qu'on annonce urbi et orbi, parce qu'en fait, ça correspond à des pratiques de la recherche différentes. La taille critique d'une équipe n'est pas la même. Quand vous pensez aux gens qui travaillent au CERN, par exemple, autour de Atlas ou CMS, voilà, donc on signe des papiers à 600. Évidemment, c'est pas la même chose que les mathématiciens ou les philosophes, où les papiers sont en gros signés au maximum avec deux personnes, tant trois, mais c'est vraiment rare. Donc, si vous voulez, on est dans cette diversité. L'ERC doit gérer cette diversité. On doit la respecter, parce qu'elle est ce qui fait la valeur de la recherche. Et donc, c'est ça un peu cette espèce de monde particulier de l'ERC, qui, comme je l'ai dit en début, est simplement une des composantes d'un ensemble complexe dans lequel il est fondamental que les soutiens récurrents existent, que les projets à court terme existent, des projets à long terme existent, des projets top-down existent, des projets bottom-up existent. On doit avoir cet écosystème global, et suivant les sujets, les poids relatifs des uns et des autres ne vont pas être les mêmes. Merci.
Moi, je remercie beaucoup tous nos participants pour exposer leurs informations très riches et leurs analyses. Je remercie aussi toute la salle et vous êtes tous réinvités demain pour la suite de cette conférence. Bonne soirée.